pyramide, c'est pas beaucoup, c'est pas une critique, hein, c'est un constat. Et donc, je vais aller aussi vite que possible dans le sujet. J'ai proposé d'intituler cette intervention La portée des machines. J'enlève tout suspense à l'interprétation de ce titre. Je veux évoquer avec ce mot de portée. C'est un nom qu'on donne pour parler, par exemple, la portée d'une femelle qui va mettre des petits au monde. Voilà, c'est en ce sens-là que je propose de réfléchir sur la nature des machines en général et de celle de la génération qui, la dernière, qui nous réunit aujourd'hui et nous fait réfléchir. Dans ce genre de manifestation, il est d'usage de communiquer aux organisatrices, en l'occurrence, un petit texte descriptif de l'intervention que vous avez sur le programme, et je vais simplement le lire pour entamer mon propos et ma rapide analyse. Donc j'avais écrit pour préfacer mon intervention ce matin ceci. Les machines à commande numérique qu'on appelle imprimante 3D, qui est une appellation de commodité qui à mon avis n'est pas juste techniquement, c'est une métaphore. Ces machines à commande numérique, celles-là, sont capables, même si ce n'est pas leur seul destin, de remplacer des gestes et des modes opératoires qui sont de plus anciennes générations. Se rejoue par conséquent avec elles une situation d'où le design moderne est littéralement sorti dans son histoire. Après avoir rapidement rappelé cette histoire, ou plutôt simplement évoqué cette histoire, je voudrais, dans quelques minutes, vous inviter à méditer sur la condition d'un design qui, fidèle à l'esprit de son moment historiquement décisif, et qui a une centaine d'années, ne chercherait pas à utiliser la poussée technique actuellement en vigueur ou en cours, mais chercherait à en authentifier la puissance singulière, spécifique et, pour tout dire, non imitative. Il y va, je crois, d'une certaine estime pour ce que donc je vous propose d'appeler la portée ou la capacité de porter des machines. Alors, l'un des textes majeurs où s'est décidée la signification moderne du mot design ou designer est un texte de Frank Lloyd Wright, que je cite désormais souvent, qui me semble un texte décisif, et qui évoque, de la manière que je vais vous lire à l'instant, la nécessité du design. Frank Lloyd Wright écrivait, alors c'est un texte dont je suis sûr qu'il est publié en 1931, mais dont l'éditeur laisse à penser que peut-être il aurait été écrit assez notablement auparavant, quoique non publié. Autrement dit, pourrait être estimé comme contemporain, en effet, du moment où le design est sorti véritablement, est né. Donc, Frank Lloyd Wright écrivait ceci. Notre industrie doit former des designers. La traduction française dit concepteur, mais dans le texte original, c'est designer, je traduis pas. Notre industrie doit former des designers au lieu de former des artisans. Car nos artisans, ce sont les machines, des artisans tout prêts, efficaces et dociles. Sur ce point, écrit toujours Frank Lloyd Wright, le pouvoir mécanique a fait table rase. Comment obtenir de ces impressionnantes machines artisans ce qu'elles peuvent faire de mieux, puis, au-delà du savoir-faire mécanique, comment trouver les rythmes de la forme? Fin de citation. Alors, je ne vais pas entrer ici dans une réflexion globale qui pourrait être de caractère sociopolitique sur la position adoptée par ce texte Wright que je viens de vous lire. Je vais seulement souligner, une fois de plus, pour ce qui me concerne, que, comme vous pouvez le constater, comme vous l'avez entendu, le design s'y trouve clairement, très clairement, lié à l'adoption des machines. Certes, cette adoption n'est pas elle-même, dans le texte de Wright, inconditionnelle. Il s'agit, je répète, de faire mieux c'est-à-dire de trouver les rythmes de la forme. Il me semble que nous sommes aujourd'hui dans une situation similaire. Tous ces techniques, comme vous le savez, est en cours, qui donnent lieu, qui fait place à des machines de taille nouvelle. Faute de temps, je ne vais pas caractériser ce matin précisément en quoi et jusqu'à quel point ce sont en effet des machines. On est bien fondé à considérer comme telles. Autrement dit, je ne vais pas m'arrêter sur ce qu'elles sont en elles-mêmes, en leur nature. Non, je vais m'arrêter plutôt à ce que je vais appeler, en espérant, quoique bref, d'être clair, l'économie, je vais m'arrêter à ce point, l'économie de leur mise en place ou de leur mise en œuvre. Par économie, je veux nommer ici quelque chose comme une interprétation des capacités des machines. Une interprétation parmi d'autres possibles. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs relations aux machines dont une est économique et en fait interprète économiquement les machines, mais d'autres interprétations des machines et des machineries en général sont possibles. C'est d'ailleurs tout simplement historiquement avéré. Même si nous n'y pensons pas forcément de manière suffisante à chaque génération. Si Frank Lloyd Wright à penser qu'on pouvait faire mieux, c'est qu'on faisait moins bien. Nous savons ce que pouvait être ce moins bien. C'était un remplacement, il le dit dans le texte, des savoir-faire artisanaux. Le même genre de moins bien est susceptible de se réaliser aujourd'hui dans le contexte de l'actuelle poussée machinique. Le nom majeur de ce moins bien n'est plus remplacement, comme nous invite à penser éventuellement le texte, mais je vous propose, c'est un peu provocant, je le sais, le nom majeur de cette économie, de cette interprétation des machines n'est plus remplacement, mais peut-être innovation. Pour autant du moins que ce terme innovation est susceptible de désigner une façon de prendre une place qui est déjà existante. Peut-être il faudra rediscuter de ce point. Je l'affirme parce que j'ai lu par exemple la définition juridique de ce que c'est qu'une innovation. Et au fond, dans cette définition, la relation entre innover et remplacer n'est pas du tout loin de pouvoir être pensée, sinon acceptée. Donc innovation est peut-être un terme susceptible de désigner une façon de prendre une place déjà existante, ce qu'on aurait appelé il y a une centaine d'années un remplacement. Je veux dire, c'est peut-être une façon de faire la même chose ou le même genre de choses, mais autrement. Est-ce que c'est pas ça qu'on appelle une innovation, finalement, faire le même genre de choses au bout du compte, mais autrement. Dans cet esprit, les machines à commande numérique, les scanners et les imprimantes 3D peuvent être mises en œuvre pour produire la même sorte d'objet qu'auparavant, mais en économisant, pour ainsi dire, sur les gestes et sur les manœuvres. C'est-à-dire en transférant, comme vous savez, ces gestes et ces manœuvres à des programmes. Je sais qu'il existe de tels programmes où on va scanner les gestes encore artisanaux, si vous voulez, dans l'espoir, au fond, alors on peut dire intention généreuse de sauver la mémoire de ces gestes, intention économique plurielle de les remplacer. Et ça, c'est exactement ça, une innovation dans un certain sens, en tout cas tout à fait possible du mot. Alors vous savez peut-être, je ne sais pas, une part non négligeable de mon travail aura consisté toutes ces dernières années à suggérer que cette idée que j'appelle cette idée que ce que j'appelle actuellement économie des machines ou des poussées techniques est en fait corrélative, inévitablement peut-être corrélative de l'installation de ces machines dans la culture. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre façon pour des poussées techniques de s'installer parmi nous autrement que sur un mode économique et ou innovant et ou de remplacement des gestes et des manœuvres déjà existants pour finalement quand même faire plus économiquement la même chose. Le mode économique de l'usage, de la mise en œuvre des machines est correspond à leur première évidence. C'est-à-dire, j'entends par évidence le fait que, je fais un peu de latin, quand j'entends le mot comme je vais vous dire, ça saute aux yeux. Voilà. La façon dont ces machines trouvent une certaine évidence de mise en œuvre ou d'usage, c'est peut-être en effet d'abord dans l'économie qui en est faite que ça se trouve. Mais cette façon est loin de satisfaire à l'ensemble des possibilités techniques mises en jeu par leur propre génération technique, leur propre poussée. Ce que je vous dis là vise à établir une distinction fine, si je peux me permettre, économiquement peu évidente, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc ce que je vous dis vise à établir une distinction fine entre ce que peut d'elle-même une technique, ce qui se trouve comme possibilité en son sein, dans la matrice porteuse qu'elle est, donc une distinction entre ça, ce que peut d'elle-même une technique en son sein, dans son caractère de matrice porteuse, et ce qui est fait ou tiré d'elle, ou employé d'elle, ou exploité d'elle par économie. L'économie d'une machine, c'est ce qui la fait servir, ou c'est ce qui la met à profit, et c'est ce qui la rend serve. Ce que voulait dire, à mon sens, le texte de Frank Lloyd Wright que je vous lisais en commençant, c'est qu'on pouvait faire mieux, justement, en ne mettant pas les machines au service, mais, j'interprète là le texte, en les estimant bien au-delà. Je veux dire, en ayant pour elles, les machines, une estime telle qu'on les aiderait, qu'on pourrait les aider, à la manière de sages-femmes, à accoucher de leur portée spécifique. Que peut mettre au monde une poussée technique qui ne soit pas seulement de l'ordre d'un remplacement de ce qui a déjà eu lieu? Telle est, à mon sens, la question non pas de l'économie de cette poussée, mais la question d'un design qui aurait l'estime des machines concernées, qui prendrait en estime les machines concernées. Alors qu'est-ce que c'est que cette estime? Qu'est-ce que ça peut être? Frank Lloyd Wright, si je le lis bien, et pour le lire comme je vais faire, je tiens compte d'autres textes que celui que je vous ai cité. Donc Frank Lloyd Wright, si je le lis bien ou un peu plus complètement, situait ce que j'appelle cette estime des machines, moins dans le registre des fonctions, vous l'avez entendu, que dans celui des formes, et même précisément, vous l'avez entendu, des rythmes de la forme. Comment comprendre cette proposition, ou plutôt, comment exposer les raisons de la compréhension que je vais en faire? Cela demanderait certainement beaucoup, beaucoup de temps. Je vais donc vous paraître assez abrupt en disant seulement que la forme, ça n'est pas l'apparence. Plus proche de nous, un designer comme Ock Eicher, récemment traduit en français dans ce recueil de textes aux éditions B42, Le Monde comme projet. Donc Ock Eicher, plus récemment, ne dit pas foncièrement autre chose, me semble-t-il, lorsque, étudiant, pour prendre un exemple historique de poussée technique, l'arc en ogive, je remonte loin dans le temps, caractéristique de l'architecture gothique, il ne disait pas autre chose que ce que je veux dire à propos des machines contemporaines, lorsqu'il écrit, je le cite, à propos de cet arc en ogive, il s'agit d'une forme nécessaire lorsqu'on entreprend de construire la voûte sur croisée d'ogives avec des arcs de même rayon, c'est-à-dire avec des pierres de même taille. Donc, si vous entendez bien cette phrase, ou si je la lis bien, vous entendez qu'il évoque une technique de construction et il pense que, étant donné cette capacité technique de construction, une forme nécessaire peut s'en déduire. Et c'est un designer qui parle. Il s'agit d'une forme nécessaire à l'arc en ogive lorsqu'on entreprend de construire la voûte sur croisée d'ogive avec des arcs de même rayon, c'est-à-dire avec des pierres de même taille. Refusant par ailleurs de faire de la forme un symbole, il le dit très clairement, très explicitement, ou d'interpréter cette notion de forme, je le cite, comme une métaphysique ou comme une idée, il ajoute, je le cite encore, « Voilà à quoi ressemble la naissance d'un style, une méthode de construction est optimisée par un changement de forme. » Une méthode de construction est optimisée par un changement de forme. Optimiser une méthode, en fait, il me semble, ce mot veut dire, dans le contexte, une capacité de production, ou, si vous voulez, un principe de construction, ou encore une matrice. Optimiser une méthode, en fait, une capacité de production ou une matrice productive, est-ce que ça n'est pas un peu comme faire mieux, ainsi que le disait le texte de Wright que j'ai lu en commençant? Oui, il me semble. Oui, c'est optimiser de Hotlicher, fin des années 90, et le faire mieux de Frank Lloyd Wright, il me semble, se relie l'un à l'autre. Oui, donc, optimiser une méthode et faire mieux, c'est la même chose, ça veut dire la même chose, si, en tout cas, ou à condition qu'on admette qu'il ne s'agit pas là de tirer avantage ou de profiter. Ce qui est en jeu dans l'optimisation dont parle Eicher, c'est, je viens de vous le lire, un changement de forme. Cette forme changée, ce n'est ni une forme ressemblante, imitative, ni, nous le savons par d'autres textes inscrits dans la mémoire du design, une ornementation des formes existantes. C'est une allure, qu'est-ce que c'est donc que cette optimisation formelle? C'est une allure, je propose cette définition, ça serait, dans mon hypothèse, dans mon analyse, une allure adéquate à la capacité méthodique de la technique mise en jeu. Adéquate, c'est moi qui propose le mot, mais je l'entends comme ne signifiant pas « m'as-tu vu ?» Une forme adéquate, c'est pas nécessairement, c'est pour ça qu'une forme, c'est pas une apparence. C'est pas quelque chose qui, comment dire, se signale à l'excès, comme formel. C'est pas m'as-tu vu. La forme adéquate, la forme nécessaire, c'est pas une forme exubérante. Et d'ailleurs, c'est à propre sens dans mon esprit. Une forme, ça n'est pas exubérant. Il ne s'agit pas, dans ce que j'essaye de vous dire, de surligner de façon manifeste, très ou trop manifestement, la technique qu'on a mise en jeu, comme peut-être dans telle chaise qui n'est pas loin de nous, exposée dans l'exposition du Centre Pompidou, telle chaise qui indiquerait justement avec exubérance sa provenance technique. Il me semble que nous en sommes là, et d'ailleurs je vais m'arrêter à peu près sur ce point, donc je ne suis pas long, je pense que là ça va. Nous en sommes là, nous sommes en train de chercher les formes adéquates. Si le temps le permet, ou si vous le souhaitez dans la discussion, je pourrais essayer de donner, en discussion précisément, quelques exemples de ce que je veux dire qui seraient empruntés à des champs similaires. Mais à défaut, pour ne pas justement être trop long, je conclurai en disant seulement à ceux qui éventuellement trouveraient économiquement inopérante la thèse que j'essaie de soutenir, je leur dirai à cela que même s'il n'y a rien dans ce que je dis qui soit de première évidence, la thèse que j'essaie de soutenir est capable, l'histoire l'a déjà montré pour d'autres poussées techniques, d'ouvrir des champs de commerce à terme dont l'idée n'existe même pas